Voilà, donc Patrick Deville, ça fait longtemps que nous voulions l'inviter, et puis cette année, en rapport avec le thème, c'était l'occasion idéale. Je rappelle que Patrick Deville entretient en effet depuis longtemps un rapport privilégié à l'étranger, au sens où l'on dit « partir à l'étranger ». Comme l'écrit son éditeur, alors ça j'ai trouvé ça amusant, mais Patrick Deville est un grand voyageur, un esprit cosmopolite. Il est d'un côté le directeur de la MIT à Saint-Nazaire, qui a un lieu tout à fait remarquable. C'est la maison des écrivains étrangers et des traducteurs, qui accueille notamment en résidence des auteurs étrangers, des traducteurs chaque année, qui organise un festival, il faut vraiment y aller si vous êtes dans ce coin, qui s'appelle Meeting, avec justement des écrivains étrangers, des traducteurs. Il publie également une revue qui s'appelle MIT, qui est une revue qui publie des textes, alors des numéros thématiques ou pas, qui publie des textes la plus souvent inédits en bilingue, et d'écrivains étrangers, et également quelques livres en dehors de la revue qui sont également en bilingue. Donc par ailleurs, Patrick Deville est écrivain, romancier. Il a publié 5 romans d'abord aux éditions de Minuit, ensuite 6 aux éditions du Seuil, qui sont traduits dans différentes langues d'ailleurs. Son avant-dernier roman, qui est Peste et choléra, a eu le prix Femina en 2013. Et son dernier roman, donc Viva, est paru en 2014. On pourrait dire qu'il plonge le lecteur dans le bouillonnement révolutionnaire, le bouillonnement aussi intellectuel du Mexique des années 30, disons. On voit Trotsky, personnage romanesque. On voit également des surréalistes qui apparaissent dans ce livre. Voilà, donc Patrick Deville va nous entretenir de sa relation justement à l'étranger. Merci à toi.
Merci, bonsoir. Comment dire, voilà, je voulais un peu dire tout ça. Déjà, on va couper beaucoup d'herbes sous le pied. De l'étranger est donc le titre de cette communication. Je n'ai quasiment que le titre, mais j'organise, Dominique Bondu vient de le rappeler, assez régulièrement des interventions d'écrivains et j'ai horreur des communications déjà écrites avec des feuilles, etc. Voilà. Et je les arrache, le cas échéant. Évidemment, ça m'oblige à vous mettre en péril, et à me mettre en péril, mais en même temps, ce sujet de l'étranger, enfin, bon, le sujet général étant ce qui nous est étranger, quand Dominique Bondu m'a demandé d'urgence un titre, voilà, j'étais à Berne et j'ai répondu « de l'étranger » en me disant « c'était en mars, j'ai le temps de voir venir ». Et puis « de l'étranger », évidemment, ça sonne un peu latin, et donc en effet, je pensais à cette phrase qui est une tarte à la crème, mais comme je suis l'un des premiers à intervenir cette semaine, je suis le premier à l'utiliser, je vais à mon tour couper l'herbe sous le pied de mes successeurs. C'est cette phrase de Cicéron selon laquelle rien de ce qui est humain ne m'est étranger, ce qui est une belle définition à la fois de la philosophie et de la littérature, et j'espère que je m'y tiens. Et bon, de Cicéron également... l'invention des règles de la dissertation, autant dire de la conférence, selon lesquelles il faut obligatoirement qu'il y ait 3 points. Alors j'y pensais un peu tout à l'heure, sous la pluie. Et donc, je vais vous parler un peu de ce que je fais dans un premier point, c'est-à-dire de manière un peu autobiographique. Je manque souvent de cet élan autobiographique par des temps orageux. Et puis ensuite, en effet, de cette maison qui est une part très importante en temps et en énergie, surtout en énergie, puisqu'il y a Dedans, c'est écrit dessus, maison des écrivains étrangers, des traducteurs, et puis ensuite vous dire peut-être un peu pourquoi je suis en France ces jours-ci. Et donc le premier point, c'est que l'étranger, le mot même, a toujours été, enfin, enfant, un rêve, et très associé à un autre mot, écrivain, parce que je crois que littérature, enfant, je ne l'employais pas. Je rêvais, en effet, à la fois de l'étranger et des écrivains. Et vraisemblablement parce que je ne connaissais ni l'un ni l'autre. J'ai lu, je lisais très vite, enfin. J'ai lu beaucoup et avec une décision d'enfant de devenir écrivain et par ailleurs d'aller à l'étranger ou au moins de rencontrer des étrangers. Alors c'est une situation, enfin, je ne suis pas si vieux que ça, qui peut paraître farfelu aujourd'hui, mais je cherchais désespérément un étranger. Il n'y avait autour de moi aucun étranger, je ne rencontrais aucun étranger. Et, enfin, étranger dans le sens d'une autre culture, d'un autre pays, d'ailleurs. Quoi. Sinon, en effet, j'ai passé mon enfance dans un hôpital psychiatrique, donc il y avait autour de moi beaucoup d'étrangers à eux-mêmes, quoi, d'aliénés, mais pas d'étrangers véritables comme j'en rêvais. Et de la même manière, je rêvais de... Enfin, je me demandais, enfin, rien ne me semblait plus beau que de devenir écrivain, et donc j'en lisais, mais je n'en avais jamais rencontré. Le premier écrivain vivant que j'ai rencontré, j'avais 20 ans. C'était Anthony Burgess, par hasard, qui était très connu à l'époque. Enfin, j'espère qu'il l'est toujours un peu, mais enfin, j'avais 20 ans, donc il en avait 60, et j'avais été plutôt favorablement... frappé par la rencontre de cet homme qui me paraissait un vieil homme déjà, puisqu'il avait 60 ans. Et donc ensuite, alors, bon, ce que je fais finalement, enfin je crois que j'ai concilié un peu ces deux rêves d'enfant de l'étranger et de l'écriture ou de la littérature, en écrivant des livres, enfin bon, je peux faire une parenthèse puisque Dominique Bondu l'a rappelé. J'ai commencé en effet par écrire des romans de fiction aux éditions de Minuit, donc des éditions un peu post-nouveau roman, de littérature expérimentale du XXe siècle. Travail dans lequel j'ai assez vite étouffé, enfin ça ne me satisfaisait pas, je me sentais un peu prisonnier de cela, et je cherchais difficilement justement à inventer des livres d'une façon qui me permit en effet de rejoindre tout cela et un certain encyclopédisme, enfin d'essayer de toucher à tout, d'aller partout, d'essayer de voir le maximum de lieux, de lire et de travailler dans des domaines extrêmement variés, de m'intéresser à des choses extrêmement différentes. Et donc, après ces 5 romans, mais évidemment ça a mis des années, j'ai entamé ce travail sur lequel je suis encore, sur lequel je suis depuis une vingtaine d'années, et travail pour lequel j'estime, j'imagine, qu'il me prendra encore 15 ans à peu près. C'est donc un ensemble de livres, un ensemble de 12 livres, ensemble pour lequel j'ai un titre général, qui est donc Sic Transit Gloria Mundi. De ces livres, jusqu'à présent, ont paru 5 titres, en français. Je parlerai peut-être un peu davantage du cinquième, puisque c'est demain ou après-demain, je dois en lire un extrait. Ces livres sont des... Donc tous ces livres sont indépendants les uns des autres, peuvent se lire dans un ordre ou dans un autre, mais enfin, ils sont tout de même destinés un jour à être lus comme un livre unique de 12 chapitres et comme une série de 4 trilogies. La première trilogie vient de paraître, enfin les 3 premiers avaient paru successivement sous les titres Pura Vida, Equatoria et Kampuchea, et donc ces 3-là viennent d'être rassemblés par les éditions du Seuil en une trilogie qui est intitulée Sikh Transit. La deuxième trilogie, elle comporte pour l'instant 2 titres, Peste et choléra et Viva, et donc elle sera terminée lorsque j'aurai terminé le prochain, qui sera donc le 6e et qui sera le milieu de ce projet. Ces livres ont en commun d'être des romans d'aventure sans fiction, mais ce sont des romans. C'est-à-dire que tous les personnages, tous les lieux, toutes les dates, tous les événements sont réels et vérifiables. Néanmoins, ce sont des romans parce qu'il s'agit d'une lecture subjective par un narrateur de ces événements, de ces vies, et que le narrateur se rend pendant plusieurs années à chaque fois sur les lieux de ce livre, enquête, lit, rencontre principalement des écrivains, mais aussi d'autres personnages politiques ou historiques. Et ce sont des romans parce que il ne s'agit pas d'un travail scientifique. Enfin, il y a une première partie du travail qui est absolument rationnelle, et puis ensuite quelque chose qui ne l'est plus, qui est même irrationnel. Et donc c'est pour cela que je suis un peu embarrassé. C'est plus difficile de parler de cela que d'un travail scientifique ou rationnel. C'est-à-dire que je délimite une zone géographique sur laquelle je me rends, mais enfin j'ai l'architecture, moi, des 12 livres, et je travaille simultanément sur l'ensemble de ces projets qui avancent à des vitesses différentes, puisque j'ai également l'ordre de publication de ces livres. Et donc, il y a un aspect géographique, puisque j'ai délimité ces zones. Le premier, c'est une zone, disons, de l'Amérique centrale, le titre en est Pura Vida, c'est-à-dire un grand rectangle vertical qui va du Guatemala au nord, Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, en incluant Cuba dedans, puisqu'on ne peut pas raconter les histoires de l'Amérique centrale sans inclure l'histoire de Cuba. Et puis après, cette zone géographique équatoriale est une traversée équatoriale de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien, c'est-à-dire que ce premier tour du monde va de l'ouest vers l'est, donc de l'Atlantique à l'Indien, de Sao Tomé et Principe dans l'Atlantique jusqu'à Zanzibar dans l'Indien, puis Kampuchea, c'est à nouveau une zone Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam, avec au milieu le Cambodge, et puis Peste et choléra se termine sur la côte de l'actuel Vietnam à Nha Trang, et en face il y a Acapulco et le Mexique. C'est donc voilà un premier tour comme cela qui est terminé. Ce qu'il y a de commun également dans ces livres, c'est que tous commencent historiquement en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment cet aujourd'hui glisse, puisque le premier Pura Vida s'arrête en 2002 et que le dernier Viva s'arrête à Tampico, sur le bord de l'Atlantique, au Mexique, le 21 février 2014. C'est donc, enfin, ce premier tour étant terminé, c'est une... Excusez, on me dit que ça doit durer une heure, je regarde. Ce premier tour étant achevé, le prochain, et c'est pour ça que je suis ici, sera le français au milieu de cela. Donc là, on en arrive à cette histoire de l'étranger, puisque tous ces livres précédents sont en effet inventés et écrits à l'étranger, depuis l'étranger, mais qu'en même temps, évidemment, je suis un écrivain français et que tout cela est une vision, que je le veuille ou non. Et même si je suis très heureux qu'on me dise, je suis très attentif à ce qu'on me dise que ces livres auraient pu être écrits ailleurs, puisque je reste tout de même suffisamment longtemps, je travaille suffisamment longtemps pour percevoir des réalités de l'intérieur, mais c'est tout de même, évidemment, quelque chose qui est un peu vu d'ici et qui donc est l'étranger. Et ce qui m'intéresse dans le projet français auquel je suis confronté maintenant, c'est en effet une vision de la France, pas depuis l'étranger, puisque j'entreprends à partir de maintenant, là, je veux faire un tour de France au volant, et donc je commence dès cette semaine. Je veux voir de près, évidemment, la France, enfin que je connais tout de même assez bien depuis une cinquantaine d'années, mais refaire le tour de ce pays. Mais en même temps, en effet, je sais que j'ai, pour être à l'étranger très souvent depuis 40 ans peut-être, je ne sais pas, enfin non, il faudrait raccrocher, enfin puisqu'en effet j'avais ce rêve de fuir et de partir le plus vite possible et de sortir de mon lazaret et d'aller voir cet étranger et d'enfin rencontrer des étrangers. Donc oui, je commençais à partir à 17 ans, d'abord vers le nord et à la voile et puis ensuite vers le sud et au volant. Et puis progressivement, voilà, je me suis installé au Moyen-Orient au début des années 80, je suis resté des années à l'étranger, en Afrique, et puis j'ai ensuite mis en place ce système qui me permet d'arpenter ces lieux, et en alternance évidemment, puisque je ne reste pas, enfin le livre mexicain c'est le résultat de séjours assez fréquents pendant 10 ans au Mexique, le Mexique étant une région à lui tout seul, enfin du nord au sud, et donc c'est maintenant que je souhaite en effet reprendre de la même manière la France de 1860 à aujourd'hui, enfin pas, et donc c'est aujourd'hui évidemment qui glisse, c'est-à-dire je veux aller jusqu'à 17 et la prochaine campagne présidentielle, parce que je trouve ça intéressant. Voilà, alors il s'agit d'un laps de temps extrêmement court. Il y a un jeu sur le temps et la géographie, enfin le temps et l'espace dans ce projet des deux tours du monde, puisqu'après la France, je pense faire un autre tour de 6 titres, dont j'ai là encore les lieux. Alors les sujets, évidemment, j'ai les sujets, mais tout cela est heureusement soumis ou enrichi par les aléas historiques de ce qui peut se passer, de ce qui peut se produire. Puisque j'étais en Afrique et en train de travailler sur le livre Équatoria, quand j'ai appris qu'enfin le procès des Khmers Rouges aurait lieu à Phnom Penh, j'avais le temps de m'organiser, de m'arranger, et donc d'être à Phnom Penh à l'ouverture du procès des Khmers Rouges fin mars 2009. Et donc le livre va jusqu'à 2011, en reprenant là encore un siècle et demi, c'est-à-dire depuis cette fameuse année 1860. J'aurais pu choisir évidemment 59 ou 61, d'ailleurs là pour la France je partirais peut-être davantage de 62, Mais enfin, c'est ce moment, c'est un laps de temps extrêmement bref, quoi, un siècle et demi. C'est ce qui m'intéresse aussi dans ces livres. Je veux qu'ils soient courts, c'est-à-dire que ça fait 200-220 pages, pas plus, chacun. Et donc, reprendre sur un endroit comme ça, un siècle et demi d'événements, ça oblige à une accélération folle et donc à une autre vision. En même temps, c'est beaucoup plus de place qu'on en peut avoir si on est journaliste, c'est beaucoup plus de place qu'un reportage, 200-220 pages. Mais en même temps, c'est tout de même très très court pour remettre un siècle et demi en perspective. Et donc, il ne s'agit pas d'une hypothèse, parce que là, encore une fois, tout cela est de la littérature, mais c'est repartir de ce moment où, d'un coup, la planète rétrécit considérablement, et c'est la première fois, peut-être, que tous les événements du monde sont interconnectés, sont sus et sont connus. C'est le grand moment de la presse écrite. C'est bientôt la pose des câbles sous-marins pour le télégraphe. Et puis, c'est le moment, c'est la deuxième révolution industrielle en Europe, où se lance cette extraordinaire compétition entre trois nations, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, qui décident que, de gré ou de force, pour le meilleur et pour le pire, l'ensemble de la planète doit devenir européenne, avec une compétition instantanément. Et alors, le meilleur étant le développement des sciences et des techniques, et donc l'accélération des moyens de transport, et puis la médecine. Alors là, justement, c'est ce livre « Peste et choléra » sur les pasteuriens, avec cette querelle entre l'Institut Pasteur à Paris et l'Institut Koch à Berlin. C'est-à-dire qu'on peut lire, enfin, au travers de la vie de quelqu'un comme Yersin, qui vit 80 ans, on peut lire sur 80 ans une géopolitique de la compétition médicale qui reprend la compétition géopolitique et guerrière, puisque lorsque Yersin à Hong Kong est en concurrence avec les Japonais pour découvrir le bacille de la peste, il est en concurrence avec le savant japonais Kitasato, qui travaille en allemand parce que pendant 7 ans, il a étudié la microbiologie à Berlin dans l'Institut Robert Koch. Donc on voit tout cela, et ça, la découverte du bacille de la peste, c'est 1894, mais on voit déjà se mettre en place quelque chose qui deviendra la géopolitique des guerres mondiales. Et donc ce siècle et demi commence par cet extraordinaire raccourcissement, diminution de la planète, cette accélération folle des moyens de transport, puisque l'année 1860, c'est l'année où un savant français, Henri Mouhot, redécouvre les temples d'Angkor au Cambodge. Et lorsqu'Henri Mouhot quitte l'Europe pour se rendre pour la première fois à Bangkok, où il descend, et ensuite il entre dans la jungle et découvre les temples d'Angkor, il met 3 mois de voyage sur un navire en bois et à la voile, et par le cap de Bonne-Espérance. En 1860, 30 ans après, quand Yersin quitte pour la première fois Marseille pour Saïgon, c'est par le canal de Suez, avec un navire à coque en fer et à vapeur, et c'est 30 jours. Et à la fin de la vie d'Yersin, lorsqu'il prend pour la dernière fois le dernier vol Air France du 30 mai 1940 au Bourget pour rentrer à Saïgon, il est l'un des premiers abonnés de cette ligne Air France. Le voyage, c'est 8 jours, avec une dizaine de décollages et atterrissages, c'est-à-dire le temps d'une vie d'homme. On est passé de 3 mois à 1 mois, puis 8 jours, et puis ensuite, enfin, dans Graham Greene, par exemple, un Américain bien tranquille, on est à une 50aine d'heures de l'Europe, et aujourd'hui, on peut aller, c'est 12 heures, il y a un vol Air France direct Paris-Saïgon. Et donc c'est ce moment où, d'une part, la planète rétrécit énormément et où l'ensemble des événements sont absolument sus et interconnectés. Et donc, évidemment, il y a dans ces livres énormément de personnages qui reviennent, beaucoup d'écrivains, une petite bande d'écrivains que je traîne à travers moi. Je viens de parler de Graham Greene, mais évidemment Jules Verne ou Pierre Loti, mais ça, ce sont des écrivains, ou Conrad, assez utiles parce qu'on les retrouve où qu'on écrive dans le monde, il y a également ses livres, mais bon, d'autres écrivains. Il y a les vivants aussi, évidemment, dans le dernier, le Mexicain. Il y a bien évidemment les grands morts, Juan Rulfo et la littérature mexicaine, mais il y a aussi tous les écrivains vivants, puisque l'une de mes premières activités, surtout un très grand bonheur, est de lire ces littératures où que je sois, et puis de rencontrer ces écrivains après les avoir lus. Donc il y a évidemment dans Viva Sergio Pitol, Mario Vellatin, Juan Villoro, enfin voilà, Margot Glantz, qui sont les écrivains mexicains vivants, enfin comme je le fais un peu partout. Je m'égare, puisque là je voulais parler d'autre chose, c'était justement cette interconnexion de tous les événements qui à la fois me sert cette conjonction d'architecture aussi pour ces livres, de livre en livre, mais aussi cette réflexion sur justement ce qui n'est pas la disparition de l'étranger. Vous voyez comment je me rattrape tout de même aux branches et aux titres de ces rencontres, mais pas la disparition de l'étranger, mais quelque chose qui fait qu'il n'y a plus cet étranger absolu, tel que ça pouvait être le cas auparavant. C'est-à-dire quand ces temples d'Angkor que Muo découvre en 1860, l'apogée de la civilisation angkorienne, c'est le XIIe siècle, et le XIIe siècle, ce sont les cathédrales, c'est la Sorbonne à Paris, c'est le début des victoires des Incas sur tous les autres peuples en Amérique latine, enfin qui vont fonder cet empire immense. Or, jusque-là, les civilisations étaient nées, s'étaient développées, avaient grandi, puis avaient disparu, sans avoir connaissance des autres, enfin des lointaines. Il y a quelque chose d'assez végétal et de très beau dans les civilisations, qui naissent, qui croissent, qui parviennent à l'apogée, et puis qui mystérieusement disparaissent. On ne sait pas toujours pourquoi les civilisations disparaissent, c'est une question qui nous concerne vraisemblablement, ayant atteint un certain degré de... Mais donc des civilisations comme celle des Indiens Mochica au Pérou, puisque là, voilà, je viens pendant 15 jours de enfin comprendre un peu mieux ces chronologies, ces civilisations-là qui sont pré-Inca, les Lima, les Wari, les Mochica, disparaissent toutes à peu près vers le 8e siècle de notre ère, avant d'être écrasées par les Incas, qui eux atteignent leur sommet justement peu de temps finalement avant l'arrivée de Pissarro vers le 16e. Et là, voilà, il y a quelque chose qui est un choc, et là commence également quelque chose. Mais donc, personne à ce moment-là, enfin ces civilisations, et sans remonter, là je n'ai plus le titre en tête, mais il y a ce livre que je n'ai toujours pas lu, que je vais lire parce que le sujet m'intéresse énormément, qui est là, chez Mireille, sous le tilleul, de ces nombreuses civilisations qui ont toutes disparu au XVIIe siècle avant notre ère. Alors là, c'est bien avant ce sur quoi je travaille, parce que moi je travaille sur un siècle et demi, c'est rien du tout. Mais il se trouve que la situation, enfin le présent dans lequel nous sommes, vient à peu près de ce moment-là, de ce moment de 1860. Et pour prendre un petit exemple... le premier livre de cette série pour Abila, le personnage principal que j'ai choisi, c'est William Walker, qui est un aventurier nord-américain qui fait la guerre, qui s'empare, qui devient président du Nicaragua, qui parvient à se faire élire président du Nicaragua, avec un triple projet: imposer la langue anglaise à l'ensemble de l'Amérique centrale, fédérer l'Amérique centrale, rétablir l'esclavage et creuser le canal transocéanique, c'est-à-dire de l'Atlantique au Pacifique, à travers et en utilisant l'immense lac Nicaragua qui est au milieu. Et ce projet échoue. Et William Walker est fusillé le 12 septembre 1860 sur une plage du Honduras. Aussitôt après, la France du Second Empire, qui a très modestement concouru à la déroute de William Walker, signe avec le nouveau gouvernement du Nicaragua le contrat pour le percement du canal. Les États-Unis réagissent, l'Angleterre aussi, menace d'une guerre, Napoléon III jette l'éponge. Et c'est parce qu'il jette l'éponge et que la France ne trouve plus possibilité de ce projet de canal transocéanique au Nicaragua que finalement, juste après, il y a l'expédition de Maximilien Ier que la France va installer sur le trône du Mexique. Et bon, vous connaissez cette histoire, enfin je la rappelle, le général Bazaine, qui plus tard voilà, sera condamné par la République pour n'avoir pas combattu à Metz une fois devenu maréchal, ça c'est la guerre de 70, mais donc juste avant 67, c'est la déroute, l'empereur Maximilien est fusillé par les hommes de Benito Juárez, et donc la France abandonne le Mexique, et parce que la France abandonne le Mexique, elle se tourne vers l'Asie, puisque c'est fini pour le Mexique, et elle crée Saïgon et la colonie de Cochinchine parce qu'en 1860, juste avant, Henri Mouhot avait découvert les temples d'Angkor. C'est un peu comme ça que ces livres sont construits, que ce qui m'intéresse, c'est en effet de suivre ces histoires pour arriver à voir, même si évidemment c'est le présent qui m'intéresse, parce que tous ces livres vont jusqu'à aujourd'hui, qu'en effet, voilà, ce siècle et demi, qui encore une fois n'est rien, même dans une famille, n'est-ce pas je parlais tout à l'heure de 1862, c'est l'année où mon arrière-grand-mère a quitté l'Égypte, là encore pour des histoires de canal, et parce que c'était le moment... enfin bon, vous connaissez l'histoire, parce qu'il y a deux jours, les Égyptiens viennent d'inaugurer le contre-canal parallèle à celui de Ferdinand de Lesseps, c'est que François Hollande y est allé, et que là, d'un coup, tout va mieux, qu'on va vendre les deux Mistral de Saint-Nazaire. Oui, je voulais parler aussi un peu de Saint-Nazaire. Et donc également, voilà, tout cela, sans remonter jusqu'à la République française d'Égypte, hein, qui était le rêve de Bonaparte, puisque ces Français qui étaient en Égypte avant de laisser la place aux Anglais, cela vient tout de même de cette très belle histoire. Voilà quel est un peu le projet. Alors je ne sais pas si je vous l'ai rendu plus lisible que moi, pour moi non plus, il n'est pas très lisible. Enfin, c'est un mélange de, comme je le disais tout à l'heure, de rationalité, parce que pendant des années, c'est un travail rationnel, c'est une logistique, je séjourne, je lis, je fais des entretiens, je prends des rendez-vous. Je rencontre aussi, évidemment, lorsque je le peux, des gens au hasard dans des bistrots, mais ça c'est le cas en Amérique latine, c'est en Asie, d'une part je ne parle pas les langues, et même en allant avec un interprète, il n'y a pas de bistrot. Donc il y a en effet, heureusement, enfin en cours de route, comme cela, des rencontres imprévues, mais il y a tout de même aussi tout un travail rationnel pendant longtemps, et au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, heureusement, ça devient irrationnel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'estime que j'en ai assez, à tout point de vue, j'ai rempli suffisamment de dizaines de carnets, de notes, d'entretiens, et de lectures, de notes de lecture, enfin j'enfourne tout ça dans un ordinateur, et là je cherche à obtenir une forme, et donc ça devient de la littérature et ça devient du roman, même si c'est sans fiction, à partir du moment où je cherche une forme susceptible, parce que ces livres ne sont pas faits au moule, que chacun de ces livres a une forme qui lui est absolument propre, et qui en effet échappe. Enfin, ça devient de la littérature lorsque cela échappe, parce qu'ensuite j'essaie de les écrire très rapidement, et là, c'est quelque chose qui est irrationnel, où on peut se laisser entraîner par la phrase, par l'écriture, on peut se laisser aller à autre chose, à une invention, même si, justement, cette invention ne concerne ni les faits, ni les lieux, ni les détails, ni les dates. Et là, encore une fois, j'ai la tentation d'excéder ce siècle et demi. Alors je m'y tiendrai néanmoins de 1860 à aujourd'hui. En même temps, peut-être, enfin ce que je m'interdisais avant, là je viens de parler des Indiens. Quand j'écrivais pour la vida, je m'étais interdit à la fois les Indiens et le Mexique parce que j'avais mis 6 ans à faire ce livre, que je ne savais pas les faire. Enfin, ce n'est pas pour autant que je sache aujourd'hui les faire, mais je suis un peu moins enseveli, enfin vraisemblablement davantage de méthode, et je suis un peu moins enseveli sous les gravats que je ne le fus pendant ces 6 ans où je travaillais sur Pula Vida, où je ne savais pas ce que j'allais faire de tout cela. Enfin, j'avais fait beaucoup d'entretiens. Puisque ça commence en 1860 avec le Fusilamiento de William Walker, mais ça va jusqu'à... Enfin, j'avais suivi la campagne des présidentielles en 97. Et j'étais devenu ami des responsables sandinistes. Je le suis toujours. J'étais le mois dernier à Managua, Nicaragua, pour une nouvelle traduction locale en Amérique centrale de Pura Vida. Donc j'ai retrouvé... Il y a quelque chose d'étonnant aussi pour moi, je l'espère aussi pour le lecteur, mais évidemment, le temps passant, ces livres deviennent des obituaires, puisqu'il y a beaucoup de vivants dans ces livres qui meurent progressivement, mais heureusement, tous ne sont pas morts. Et donc je retrouve des personnages de mes livres, enfin j'ai retrouvé Sergio Ramírez, je ne sais pas si vous voyez, qui était le vice-président de la République du Nicaragua sandiniste, dont j'avais suivi la présidentielle en 1997, qu'il avait perdu contre la droite de Arnaldo Alemán. Et donc je l'ai retrouvé, on ne s'était pas vu depuis longtemps, là à Managua, Nicaragua. Et puis il y a aussi dans ce livre le padre Ernesto Cardenal, par exemple, qui était ministre de la culture sandiniste à ce moment-là et qui est aujourd'hui, dont on a fêté, là, c'était en mai, les 90 ans. Et donc, je ne sais plus là où je voulais en venir, mais sur cette histoire de méthode, voilà. Donc la méthode s'étant un peu affinée, j'ai très envie maintenant, tout en conservant ces limites de 1860 à nos jours, d'élargir un peu dans le temps et de pouvoir, là par exemple, introduire le récit d'autres civilisations comme celle des Indiens avant l'époque, qu'on peut appeler comme on veut, enfin pré-colombienne ou pré-cortésienne ou pré-pissarienne. Et même, enfin, il y a quelque chose de... Enfin, c'est aussi ce qu'il y a d'extraordinaire avec la littérature, qui est de pouvoir absolument tout balayer. Et il y a ce rêve de... nous ne pouvons plus être des encyclopédistes. Évidemment, j'ai une telle admiration, enfin, pour les Lumières, ces positivistes de la fin du 19e, comme les pasteuriens, enfin, ces barbichus, comme dit Michon, positivistes, qui jusqu'à la fin du 19e, pensent que tout progrès est positif, bénéfique, et va vers le mieux de l'humanité. Malheureusement, nous savons bien, nous, que la plupart du temps, les progrès des sciences et des techniques vont vers le pire. Et donc voilà, j'ai énormément d'autres choses peuvent faire rêver qui peuvent vraisemblablement entrer également là-dedans. Et là, j'ai depuis hier un caillou dans la tête. Je ne sais pas, il me semble, j'ai vu ça dans le train hier, il me semble que c'est dans Le Monde. Je ne sais pas si vous avez vu cette image absolument magnifique d'un caillou qui n'est pas un caillou, d'environ 3 cm et demi. C'est tout petit, quoi. Qui en fait sont deux bestioles fossilisées qui ont été noyées, qui se sont retrouvées dans le même terrier et qui ont été noyées par une montée des eaux au passage du Permien au Trias, c'est-à-dire il y a 250 millions d'années. Et en effet, quand on prend ces histoires de 1860, parce qu'en plus le passage du Permien au Trias, aujourd'hui, on date ce passage avec une précision très grande, mais qui est tout de même d'environ 300 000 ans. Et c'est absolument bouleversant et magnifique de lire ce genre de choses, puisque moi, quand je me dis après que j'essaie d'écrire sur ces 150 ans, et qu'on me dit que c'est long, 150 ans... Donc ce siècle et demi est un tout petit siècle et demi perdu dans l'histoire, comme cette planète est une toute petite poussière perdue au milieu des galaxies, etc. Mais il se trouve que nous sommes là et maintenant. Alors tout ça ne nous avance pas beaucoup sur l'étranger, mais si, parce que même cela, voilà, ne doit pas nous être étranger. Et il y a quelque chose tout de même aussi de très particulier dans notre situation, étranger à quoi, c'est que nous sommes peut-être, en revenant sur ces deux bestioles entrelacées, nous sommes vraisemblablement les premiers depuis très peu de temps à avoir cette conscience extraordinaire de notre fragilité et de tout ce qu'il peut y avoir d'éphémère dans ce que toutes ces autres civilisations ont pensé pérenne, sûre et définitive. Hérodote, pour nous, c'est hier. C'est un peu avant mon arrière-grand-mère qui quitte le Caire, mais pas tant que ça, si on pense à ces deux bestioles entrelacées. Et Hérodote décrit un monde, enfin, et puis ensuite, enfin, toute l'histoire de la géographie, de la cartographie, mais jusqu'aux explorateurs dont j'ai écrit les vies, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, Savarnyan Braza, Henry Martin Stanley, Livingstone, etc. Ces gens, ou bien le Mékong, Francis Garnier et Ernest Doudard de Lagrée, qui sont les premiers à cartographier le Mékong du Delta jusqu'à la Chine, pensent qu'il faut cartographier, qu'ils sont les premiers à cartographier, à relever les berges et le débit, et qu'une fois que ce travail sera fait, il ne sera plus à faire. Or, nous savons, nous, que non. Voilà, le Mékong ne coule déjà plus comme Lagrée et Garnier disaient qu'il fallait qu'il coulât. Et sans remonter donc à beaucoup. Enfin, avant, quoi. On sait que la géographie, on sait que tout ça est quelque chose. Que nous sommes sur. Quasiment rien, enfin, qu'on ignorait la tectonique des plaques. Nous savons, nous, que nous flottons, enfin, voilà, que tout cela est très provisoire, presque rien, qu'un siècle et demi, c'est presque un quotidien, le journal de la veille, etc., où on lit les faits divers, que ce qui s'est passé sur ce siècle et demi, ça n'est déjà plus qu'un petit ramassis de faits divers. Oui, je voulais dire un mot de Saint-Nazaire, je vais le dire, puisque justement, Dominique Bondu en a parlé, puis il y a dans la librairie de Christian Torel, c'est une autre activité, mais qui pour moi est absolument liée, inextricablement liée. Et puis là, justement, j'en reviens aussi à ces étrangers. Non, j'ai encore quelque chose à dire à la fin. Non, je vais plutôt le dire maintenant. C'est que cette maison est en France et que son rôle, donc enfin sa mission, ce qu'elle fait, c'est d'accueillir en France, d'inviter en France et de donner la possibilité, avec des bourses, un hébergement, etc., à des écrivains étrangers de venir travailler et écrire en France. Et que cette maison, en effet, elle existe depuis 27 ans, qu'elle essaie de faire un travail de découverte, enfin d'ouverture, et que donc elle y parvient parfois très très bien, c'est-à-dire qu'il y a des écrivains étrangers qui ont été édités là en édition bilingue il y a très longtemps, qui aujourd'hui sont des écrivains lus partout. On peut penser aux Argentins César Aira, Ricardo Piglia, beaucoup plus récemment Eduardo Halfon, écrivain guatémaltèque qui maintenant est édité. Voilà, on trouvait des maisons d'édition et puis qui organise, voilà, des. Alors ça n'est pas dans l'abbaye de la. La chance ou la calamité des abbayes, mais donc j'organise chaque année également des rencontres littéraires à l'abbaye de Fontevraud, à peu près comparable à cette abbaye, qui date du XIIe siècle, on ne va pas reprendre les dates, mais enfin. Et que le rôle de cette maison est, alors, dans le côté des écrivains étrangers et des traducteurs, de leur proposer de venir en France et travailler en France, qu'être traduit en français, vous le savez vraisemblablement, n'est pas rien pour un écrivain étranger. Là, on est. que la traduction vers le français est très importante dans la plupart des carrières encore aujourd'hui d'écrivains étrangers, mais que d'un autre côté, en effet, cette activité m'enrichit, moi, à rebours énormément, et qu'elle, un peu comme le fait d'être très très souvent à l'étranger, dans cet étonnement, mais que c'est un étonnement avec un grand plaisir, quoi, d'en être arrivé maintenant à écrire sur un siècle et demi de la France. Et parce que je m'aperçois qu'en effet, j'ai une vision qui est déformée, et je le sens bien, beaucoup trop idéalisée de la France, et que ce tour de France au volant, ce que je vais me contraindre à faire, et cette lecture, c'est-à-dire qu'il en est un peu pour moi, si on reprend le temps et l'espace, il en est un peu pour moi de la France comme du présent, quoi. En fait, le présent m'agace, et je pense que la France aussi m'agace beaucoup. Et le présent m'agace, enfin, vous le voyez bien, c'est aussi ce qu'il y a d'extraordinaire dans la littérature, c'est que autant le présent est agaçant, autant une fois qu'il est passé, on en garde quelque chose d'extraordinaire. Enfin, que ce qui est beau, c'est la mémoire, le souvenir, et puis que tout cela ensuite, qu'on oublie les multiples emmerdements du présent, et que la mémoire peut en conserver, voilà, quelque chose comme l'essence, enfin, que la mémoire en exprime le bonheur comme on exprime le jus d'un fruit. Et je vois bien que cet agacement à l'égard du présent, j'ai le même à l'égard de la France, que ma vision est déformée de la France, que j'ai trop tendance à voir de l'extérieur. Mais enfin bon, voilà, ça n'est pas rien. Ce sont les affres de l'invention de ce prochain livre. Je verrai cela plus tard. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis très content d'être parvenu à parler de ces deux bestioles enlacées, parce que je ne voyais pas très bien comment glisser ça dans l'étranger, mais en même temps, voilà, c'est pas retrouver cette photographie extraordinaire. Est-ce qu'il est de coutume ici qu'il y ait des questions ou pas? Non, il n'y a pas de questions. Comment? Après? D'accord. Eh bien, plions-nous à la coutume, et je vous remercie.